Madame, monsieur, bonjour, mon nom est Bruno Mec, je suis le chef de cabine principale sur ce vol, madame Duro.
Spéciale fête de fin d'année, en sol majeur, vous propose cette rediffusion.
Destination que nous atteindrons après un vol de 9h30 de vol environ.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur, replonge dans ces cartons haïtiens. Souvenez-vous, nous y étions en mai pour Livre en folie sur une invitation de l'Institut français de Port-au-Prince. Tiponche, soleil de nuit, et oui, il fait nuit très tôt en Haïti, et littérature en intraveineuse. C'était un jeudi, jour d'orage, et nous venions d'avoir le feu vert de Franck Étienne, celui que les Haïtiens appellent « trésor national ». Oui, le feu vert pour poser nos micros dans sa maison cossue du quartier de Delmas. Maison musée, hein, où ses peintures le disputent à ses livres et où les poèmes érotiques se lisent encore un peu dans les yeux toujours très bleus de ce chabin de 80 ans. Alors il y a eu comme un petit deal entre cette figure majeure de la littérature mondiale et en sol majeur. Laissez parler ce fils de Babel de ce qu'il voulait. Alors évidemment, on a dégainé notre abécédaire pour un week-end entier avec lui, mais en même temps, comment résister à la loi des yeux, la loi des yeux encore très bleus.
Quelle heure est-il dans votre vie?
Il est 80 heures. Ça veut dire un cycle de 10 fois 8. Parce que le cycle de ma vie est 8. Chaque individu a un cycle de vie. Comme les arbres. Ça dépend, l'amandier, le citronnier, l'oranger ont leur cycle de vie.
Est-ce que vous vous rêvez centenaire?
Non, oh non. Et là, Delphine, tu me pousses à dire ce que tout le monde sait.
Qui est
déjà.
Delphine?
Hein?
Delphine?
Ah, écoutez, Jasmine.
Vous me confondez déjà?
Et il me reste 4 années à vivre, parce que j'ai dialogué, j'ai parlé à cette entité qui est en chacun de nous. Nous n'allons pas avoir une querelle de sémantique, parce que la sémantique, elle est pauvre par rapport à la richesse de la vie. Une seconde de vie est plus riche que tous les dictionnaires du monde. Donc, j'ai parlé à cette entité qu'on appelle Dieu, qu'on appelle loi, dans le vaudou haïtien. Et j'ai dit que je ne veux pas rester au-delà de 84 ans. Mais je l'ai intériorisé fortement, et cela depuis une vingtaine d'années. Et tout ce qu'on intériorise intensément se réalise.
Ça veut dire que vous programmez votre mort?
Si le mot programmation n'est pas trop académique, oui. S'il s'agit, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce choix, il y a beaucoup, je dirais, de subjectivité dans ce choix, mais il y a aussi des choses objectives. C'est que je suis un rescapé de plusieurs catastrophes. Un rescapé de ma vie d'enfance à Ravine Sèche, où je suis né, dans un milieu totalement défavorisé. Tous les parents, les amis que j'avais à Ravine Sèche, tous ils sont morts à 40 ans. Je suis un rescapé de la misère de mon village natal. Je suis un rescapé aussi du quartier où j'ai vécu à Port-au-Prince. Ma mère, qui avait à peine à l'époque 19 ans, moi j'avais 3 ans, parce que ma mère m'a eu à 16 ans, un Américain qui avait déjà plus de 60 ans. Quand elle a émigré avec moi, son fils de je ne sais pas, illégitime ou de bâtard, eh bien je suis arrivé au Bel Air, c'est un quartier, actuellement 10 quartiers de non-droit. j'ai échappé aussi à la délinquance dans ce quartier où j'ai commencé à boire à 6 ans, où j'ai commencé à fumer à 6 ans, où j'étais dans une sorte de délinquance, de rébellion contre ma propre mère. Donc ça a été une déviation qui aurait pu m'entraîner vers l'abîme. N'oubliez pas que j'ai vécu dans ce quartier populaire où il y avait de la promiscuité. Non seulement je fumais, je buvais, mais je fouinais dans tous les corridors. Tu sais, les corridors, ce sont ces espaces entre deux rangées de maisons. J'étais dans tous ces corridors et je fouinais, je creusais des trous dans les panneaux des maisons pour voir qui couchait avec qui et quelle femme trompait son mari.
Le théâtre, déjà. Les coulisses de la vie.
Oui, les coulisses de la vie, mais je peux me permettre de dire ça, la puissance de l'érotisme chez moi. Parce que je savais ce que faisaient les gens dans le lit ou sur le sofa. Et j'avais l'anolie. Tu sais, l'anolie, c'est une espèce de petit lézard. Mais l'anolie devenait ma bouilla.
Traduction ?
Il y avait déjà l'érection.
D'accord, merci. Là, j'ai compris. Vous êtes pudique comme ça, avec tout ce que vous écrivez. Mais l'érotisme, c'est un ressort de votre écriture.
Parce que l'érotisme sous-tend les grandes forces vitales. Je suis un rescapé de deux dictatures qui ont duré 30 ans les deux, celle du Papa Doc et celle de Baby Doc. Je suis un rescapé d'un cancer de la prostate qui était très avancé. Je pisse bien. Et un rescapé aussi du tremblement de terre. Et un rescapé d'un AVC qu'on appelle chez nous le stroke.
Est-ce que vous êtes un rescapé du métissage ?
Oui, quelque part, un rescapé du métissage. Mais, paradoxalement, je crois avoir bénéficié du métissage. Parce que je crois que déjà, la première forme d'expression de ce métissage qui est d'ordre biologique, un Américain, cet Américain, il était juif, il était allemand, il était irlandais en même temps, du côté maternel et paternel, et puis ma mère, une haïtienne, paysanne. Donc je crois que c'est une richesse, le métissage est une richesse. Et je me sens nègre. D'ailleurs, j'ai la peau blanche, les yeux bleus, mais ma morphologie est nègre. On me regarde, moi, mon visage, on voit que c'est un nègre.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une merveille en vous, que votre mère veille encore sur vous ?
Ah. Oui, elle est morte à 82 ans. Mais c'est une femme comme beaucoup de paysannes haïtiennes. Il y a un mot que tu connais sûrement, le mot potomitan. On dit que la femme haïtienne, en particulier la paysanne haïtienne, est un potomitan. Le potomitan, c'est le pilier qui soutient le dôme du temple vaudou.
Vous qui êtes dans l'image, Franck-Étienne, j'aimerais une image de votre mère. L'image que vous gardez d'elle lorsque vous étiez enfant.
Les larmes qu'elle a versées un matin, un samedi matin, j'avais 5 ans, elle avait 21 ans. Nous sortions ce matin-là de la station principale de McDonald's. Le McDonald's, c'est pas le McDonald's qui donne le prêt-à-manger, les hot dogs et les hamburgers. C'était une compagnie des chemins de fer qui portait le nom de McDonald's et qui était la propriété de mon géniteur. Je ne dis pas mon père parce que mon père, c'est un Haïtien. C'est mon beau-père qui est mon père. Et lui qui m'a pris en charge, c'est celui qui donne le pain qui est le père. Donc ma mère m'a fait apprendre une phrase par l'intermédiaire d'un prêtre défoqué, d'un moine défoqué qui vivait dans le quartier pauvre. Papa, j'aimerais avoir une petite maison. Ma mère peut-être voulait sauver quelque chose de cette rencontre, que son enfant ait une maison. Donc ma mère m'a conduit auprès de mon père et j'ai vu un gros blanc, immense, avec une grosse tête, et des yeux bleus, et j'ai sorti ma phrase. Papa, j'aimerais avoir une maison. On m'a fait apprendre la phrase parce que je ne parlais pas français. Je parlais uniquement, exclusivement le créole. Et il a dit, ah, comme ça, toi aimerais avoir une maison. Eh bien, on verra. Ma mère a eu une conversation de peut-être 2 minutes, pas plus, avec ce blanc. Et nous sommes remontés, nous avons remonté la butte qui conduit à notre pauvre maisonnette, à notre pauvre chaumière au Bel Air. Et en traversant la Grand Rue, qui est la rue principale à l'époque du bord de mer, bon, détruite par le tremblement de terre, j'ai vu pleurer ma mère. Et je savais qu'elle pleurait pour moi, qu'elle pleurait sur moi, qu'elle pleurait sur sa vie, qu'elle pleurait sur cette rencontre. Et je n'ai jamais oublié, parce que tout de suite j'avais compris que je n'aurais jamais la maison.
Donc cette scène primitive a été déterminante ?
Déterminante, et peut-être que c'est cette petite maison que je n'ai pas eue qui fait que maintenant je dis que Franck-Étienne est une immense cathédrale.
Mes ouragans des vercontés, ma balustrade et mon échelle vibrent et bougent violemment au galop de mon lit déglingué, transportant mes amours déraillés vers un ailleurs indéfini qui me fascine.
P comme...
Les grises grimaces du masque mâle occultent maladroitement la panique du visage des hommes qui, au fond, sont effrayés par l'essence mystérieuse qui se dégage de la présence féminine.
Prête-moi ta plume.
Il n'a pas eu la maison, mais moi, je suis devenu une immense cathédrale.
Une immense cathédrale qui vit dans une maison-théâtre. Hein.
Oui.
C'est ça, votre maison, hein. On est dans un coin bibliothèque.
C'est vrai. Il y a une dimension théâtrale ou amphithéâtrale dans cette architecture.
Il y a des coins livres, il y a des coins peintures qu'on ira visiter tout à l'heure.
Ah oui.
Il y a un coin bureau là-bas, c'est là-bas que ça se passe ?
Non, là,
c'est
là,
le lieu
c'est...
du crime
non,
ou pas ?
Non. Je n'ai jamais touché à un clavier d'ordinateur. Je me définis un ovni. Original vieillard non informatisé. Je n'ai jamais touché un clavier d'ordinateur. C'est ma femme qui fait tout. C'est sa place. Moi, j'écris sur un petit bureau d'écolier qu'il y a dans ma chambre.
Donc, votre femme.
La peinture.
Votre femme est à vos ordres, alors, cher Franck-Étienne, féministe que vous êtes.
Non, elle n'est pas. Elle le fait par amour.
Je vous taquine.
Oui, elle le fait par amour. C'est parce que telle que tu la vois là, elle est assez rebelle. C'est aussi un potomitan.
Comment est-ce que vous êtes devenu un homme libre, Franck-Étienne ?
À travers la rébellion, à travers ma révolte enfantine. Et cela s'est incrusté dans toute ma vie.
Vous disiez tout à l'heure, je me suis rebellé contre ma mère, enfant.
Parce que je ne comprenais pas. Écoutez. Trop souvent, les adultes, les parents, sous-estiment la subtile intelligence des enfants. J'étais très intelligent pour comprendre que mon beau-père, qui s'est comporté comme un père, mais n'était pas mon père biologique, et je ne comprenais pas pourquoi. Je l'appelais papa, et puis mais je sais, j'ai dit, mais pas possible. Et ma mère et mon beau-père ne pouvaient pas produire une espèce bizarroïde comme Franck-Étienne, le petit Franco qu'on m'appelait, le Blanco, ou encore on m'appelait Blanc Manant. Le Blanc Manant, c'est le petit blanc pauvre. Et je crois que j'ai commencé à me rebeller contre ma mère, à dire, mais écoutez, où est-ce qu'elle est allée trouver Franck-Étienne. À l'époque, je ne m'appelais pas Franck-Étienne. Je m'appelais Jean-Pierre Basilique Dantor Franck-Étienne d'Argent. C'est ce nom qu'on m'a donné en province. Ça s'appelle un nom vaillant. Parce que je suis né dans une cour, dans un petit lieu où il y avait des vaudouisants. Ma grand-mère a été une vaudouisante. Donc quand on m'a baptisé Jean-Pierre Basilique Dantor Franck-Étienne d'Argent. Dantor renvoie à une divinité vaudou. Et ce nom a changé. Quand j'ai été la risée des camarades de classe, ma mère fatiguée de ça, elle s'est arrangée pour aller voir un officier d'état civil et puis on m'a donné un faux baptistère, un faux acte de naissance avec seulement Franck-Étienne. Et je suis devenu Franck-Étienne Collet quand j'ai eu à peu près 36 ans, quand j'ai produit Ultra Vocal. C'est à ce moment-là que j'ai senti la nécessité d'agglutiner mon nom et mon prénom pour être en paix avec moi-même. dans un pays ravagé par la division, totalement saccagé, laminé, creusé, fouillé par le virus de la division.
Dans quelle culture le petit homme blanc a été éduqué ?
Bon, d'abord, la culture typique haïtienne, avec la langue créole et puis avec toutes les références mythiques créoles. Mais c'est à l'école, quand je suis allé à l'école, j'étais tout étonné de découvrir qu'il y avait autre chose que le creuset culturel typiquement haïtien. J'ai été en classe d'enfantine 2 dans un petit séminaire collège Saint-Martial où il n'y avait que des gens aisés. Ma mère et mon beau-père ont fait l'effort de me placer dans une école sophistiquée parce que ma mère me considérait comme un petit blanc, fils de blanc, mais elle ne savait pas que j'étais un faux blanc. Parce que le faux blanc, c'est le blanc pauvre. Je suis arrivé et la mère Félicienne, qui était une bretonne, parce que c'est le clergé breton qui a été chargé au terme d'un concordat, qui est un concordat signé entre l'Église catholique et l'État haïtien, eh bien, le concordat a octroyé au clergé breton les droits, l'obligation d'enseigner aux Haïtiens. Et j'arrive, une sœur bretonne, Félicienne, me demande mon nom en langue française, bien sûr. « Comment t'appelles-tu, petit ?» Je n'ai pas compris. « Mais comment t'appelles-tu, petit ?» Et j'ai souri comme un imbécile parce que je ne comprenais pas. Ça a été pour moi une découverte d'entendre une autre manière de parler. La chercheur est partie et c'est un camarade de classe, lui, qui était bilingue et qui m'a dit en créole, « Petit niais, petit macaque, c'est ton nom qu'on t'a demandé. » Et depuis lors, je me rappelle, maître dit, j'avais un compte à régler avec cette langue flûtée comme sortie des lèvres d'une petite souris. C'était parce que la langue française, c'est une langue avec les lèvres très rapprochées. Hein. Le créole, c'est la bouche ouverte, c'est les lèvres ouvertes parce que c'est la différence au niveau organique ou bien au niveau, c'est ça, c'est des organes, les lèvres, la bouche. On parle le créole la bouche ouverte. Jacques Cotto parle là, vous voyez là. Tandis que le français se parle avec les lèvres rapprochées. C'est pourquoi on dit le français, c'est une langue diole pointue. la gueule fermée.
Oui. En cul de poule.
Oui, cul de poule, ouais, c'est ça.
Alors, cette chanson, « Tis oiseaux, côté au pralé ».
C'est une chanson qui exprime la naïveté d'une fillette, c'est une femme, qui sort et qui court le risque d'être kidnappée ou mangée, dévorée par une sorcière.
Moins du ciel à la belle nuit, Tis oiseaux, non moins qui t'a pu écouter. Tis oiseaux, non moins qui t'a pu écouter. Vite oublié ça, c'est trop bon la peine. Quand des bijoux sages, le pied moins nos chaînes. Vite oublié ça,
comment elle s'appelle cette fille-là? Je sais pas son nom.
Non, moi qui t'a pu écouter. Tis oiseaux, non, moi qui t'a pu écouter.
Tis oiseaux, une petite berceuse haïtienne sur le gramophone de Franck Etienne. On fait comme à la maison, on écoute les infos du monde et on se retrouve à Port-au-Prince dans 3 minutes.
A long way from home. En sol majeur.
En sol majeur. Suite de cet en sol majeur spécial, nous sommes en tête-à-tête tout ce week-end avec Franck Etienne, grâce à l'Institut français. Un week-end entier pour un artiste énorme, protéiforme. Poète, dramaturge, romancier, comédien, peintre, 100% francophone, 100% créolophone, auteur d'une œuvre immense. Nous n'évoquons dans le salon de sa maison musée de Port-au-Prince que Corps de douleur, un inédit que je n'ai donc pas lu, et Les métamorphoses de l'oiseau schizophone. Franck Etienne, 80 ans, reste cet enfant caca savon, un enfant sans père, qui a construit sa phrase romanesque sur une phrase primitive qui disait « Papa, j'aimerais avoir une maison ». Dans ce quartier de Delmas où nous sommes, on peut dire que la phrase de l'enfant bâtard a tenu ses promesses. Le divin file à la langue qui lui sert de plume, le protège désormais du vent et du temps qui passe.
V. Comme. Voyou ou voyelle.
Ça, c'est une création. C'est venu de manière très spontanée. J'étais en écrivant voyou et tout de suite j'ai dit mais voyelle est le féminin de voyou. Le féminin de voyou, c'est voyelle.
Mm-hmm. Et comme les écrivains sont des êtres androgynes, la question se pose. Est-ce que oui. Vous êtes voyou et voyelle?
Je suis les deux, oui. Je suis, tu l'as bien dit, Yasmine, j'ai vécu cette androgynie et je l'ai découverte très tôt en moi, au fond de moi. Bon, structurellement, je suis un mâle. Je ne suis pas trop fier de le dire parce que pour toutes les reproches que je dois adresser au mâle, mais j'ai vécu qu'avec des femmes. Parce que mon beau-père avait 7 concubines dans le même quartier. Donc ma mère était là, dans la solitude, et puis j'ai été suivi de 2 filles, de 2 sœurs qui m'ont suivi. Eh bien, cette nature, elle est ancrée au fond de moi. Je crois qu'il y a une part femelle chez moi.
Femelle?
Oui,
femelle. Pas féminine?
Féminine aussi.
Est-ce qu'il y a des mots...
Et tout cela m'a permis d'écrire le dernier livre dont j'ai parlé tout à l'heure, mm-hmm. Corps de douleur, qui est le corps de la femme.
Qu'est-ce que vous en avez fait de ce corps féminin dans ce nouveau roman?
Je crois que c'est un livre qui tombe à pic. Je l'ai écrit de février... Il est terminé début avril. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un mois après, ou un mois et demi, tout récemment, un scandale dans l'Assemblée nationale française. La démission forcée ou volontaire du vice-président de l'Assemblée nationale pour cause de harcèlement. Je ne juge pas.
Monsieur Baupin.
Oui. Et ensuite, 12 ou 17 femmes célèbres, ex-ministres, qui prennent position, qui disent « c'est fini, nous ne cesserons pas maintenant de parler et personne ne nous fermera la bouche ». Il y a ces phrases dans le livre que j'ai écrit bien avant les événements.
Donc c'est un livre militant ?
C'est un livre militant parce que moi, écoutez, à mon âge, je n'ai pas approuvé ce que j'appelle mes vertus ou bien mon engagement féministe, c'est le mot. Puis c'est un livre poétique, je suis surtout poète. Hein. Donc de manière poétique, on peut dire beaucoup de choses avec des métaphores. Et j'ai présenté ce que j'appelle toute la série de douleurs qui écrasent la femme, d'abord biologiquement. J'ai parlé des douleurs communes, courantes, c'est-à-dire les premières règles, qui souvent chez certains sujets... dure 30 ans avec des douleurs jusqu'à la ménopause. Et quand on fait face à un bourreau, si c'est le malheur d'une adolescente de 15-16 ans qui rencontre un bourreau de mâle, c'est un supplice, la défloration. Il y a la grossesse et il y a l'accouchement. Et puis il y a ensuite tout le poids de l'hégémonie mâle qu'on retrouve à l'échelle de la planète.
Vous allez effrayer votre jeune lectorat. Ce n'est pas qu'un cortège de malheurs, la féminité.
Ce n'est pas un cortège de malheurs, mais en grande partie, il y a des exceptions. Il y a des femmes qui ont eu la chance de rencontrer des gens de bien, des mâles, qui ont conscience que la femme n'est pas inférieure à l'homme. Il y a ceci aussi que je dois dire pour terminer. Non, pour terminer avec ce livre, on n'y reviendra pas. Le livre Corps de douleur, c'est le corps de douleur de la femme. C'est le corps de douleur d'une île imaginaire qui est forcément Haïti. C'est le corps de douleur de la planète. La planète est une femme qui est labourée, trifafouillée, maltraitée pour le pétrole, l'or, l'iridium, le plutonium. Et puis, le corps de douleur aussi de l'écrivain qui est le corps de douleur de l'écriture. L'écriture est quelque part une douleur.
L'écriture est en souffrance, vous diriez, aujourd'hui ?
Écoutez, l'écriture est en panne, comme la planète. Non, l'écriture est en panne. Bon, c'est les époques, nous vivons une époque de déclin, nous vivons une époque de déliquescence. Il y a des exceptions, bien sûr, mais imaginez, retournez, un regard rétrospectif sur le XXe siècle. On a eu une efflorescence de grands écrivains, les Monroy, les Malraux, les Steinbeck, les Hemingway, les Fitzgerald, les Faulkner. On n'a pas ça maintenant. On a une littérature qui se cramponne à l'anecdotisme. Un pédophile qui est dans un quartier, qui couche les petits garçons, les petites filles de 10 ans, de 12 ans. Et puis, le public aime ça aussi. Donc, il y a une mauvaise complicité entre ces écrivains paresseux et un public aussi paresseux. Moi, j'ai choisi, je sais que c'est un chemin difficile, c'est un itinéraire de douleur d'avoir choisi cette forme d'écriture.
J'ai vu l'océan malais constellé de méduses phosphorescentes aussi loin que la nuit permit au regard de plonger dans la baie. Puis la frémissante nébuleuse des lucioles qui couvrait les pentes jusqu'aux forêts disparaît peu à peu.
Something of the old hysteric incredulous outrage came back into his face.
À peine, dans ton ciel sombre, abattu sur ta beauté, je sentais à boire l'ombre m'envahir une clarté.
Quels sont les mots qui vous font peur?
Franck Etienne.
Les mots qui pourraient me faire peur, c'est la dictature, la tyrannie. Et l'esclavage, non, mais je n'ai pas peur. Je refuse d'intérioriser ce qu'il y a de substance négative dans certains vocables. Parce que, quelque part, je suis un scientifique. J'ai enseigné les mathématiques pendant 40 années. Et toutes les mathématiques, c'est-à-dire l'algèbre linéaire, la théorie des ensembles, la géométrie, la trigonométrie. J'étais aussi professeur de physique. Donc je suis un scientifique.
Est-ce qu'il y a des mathématiques dans votre littérature?
Il y a l'esprit mathématique. L'esprit scientifique, c'est cet esprit de rigueur. Il y a beaucoup de paradoxes chez moi, beaucoup de contrastes. Je suis à la fois un homme dans la rébellion, dans le non-conformisme, dans le non-académisme, et pourtant il y a de la rigueur chez moi.
Quand on ouvre vos livres, c'est un peu comme des oiseaux qui en sortent. On trouve beaucoup de choses, mais notamment des néologismes. Il y a une foultitude de néologismes. Il n'y a pas un jour sans néologisme dans la vie de Franck Etienne. Quelles sont vos dernières trouvailles linguistiques dont vous êtes fier?
Mes dernières trouvailles linguistiques, c'est dans Corps de douleur. Et cette femme, je n'ai pas choisi une pauvre d'un quartier misérable. La femme qui parle dans ce livre, c'est un monologue délirant, qui proteste, qui enrage. C'est une marquise. C'est une marquise, et cela m'a été suggéré, insufflé par le génial Paul Valéry, qui a écrit « Et la marquise sortie à 5 heures ». Mais la marquise sortie à 5 heures, pour aller faire quoi? Pour aller peut-être à la boulangerie, pour aller à l'épicerie, pour aller à l'église, ou bien pour aller rencontrer un amant, tromper le marquis. Et après, qu'est-ce qui en restera? Paul Valéry te dit, c'est ça qui fait la valeur de la poésie. C'est pourquoi je crois que le vrai art, il est poétique. Donc, j'ai pris cette marquise, et c'est cette marquise qui abandonne le confort. Parce que ça aurait été trop facile pour moi de prendre quelqu'un qui a déjà toutes les misères du monde. Prendre une malheureuse de Cité Soleil ou bien du Bel Air. Eh bien, ça, c'est trop facile. Je prends quelqu'un qui tourne le dos au confort, qui tourne le dos à tous les privilèges de sa classe sociale, et qui dit « Je suis fatigué de cette dictature camouflée. » Parce que très souvent, la femme, elle est dorlotée, mais pour mieux la servir.
Mais comment vous la faites parler, votre marquise? Est-ce qu'elle a un langage dissident, justement, qui serait en rupture avec sa condition sociale?
Ah non, mais c'est, écoutez, c'est une femme qui est en rupture.
J'attends mon néologisme, moi, vous savez.
Oui, oui, non, c'est pas une... Non, je te donne un des exemples, il y en a plusieurs. Hein. La dernière trouvaille, c'est de l'invalide à l'invalibre. De l'invalide à l'invalibre. Voilà cette femme qui a une aventure riche de toute sa dissidence et du refus de la soumission à des normes antiféministes.
Divin, fit la langue, a dérouté la mort peureuse. Mais je sais que la mort reviendra, soumise aux ultimes spasmes de l'œuvre généreuse et fabuleuse, qui vibre beaucoup plus pure que la coquille, souvent vide.
Est-ce comme...
Et plus brûlante que le feu des mystères de la création, entre la plénitude jubilatoire et les morsures de l'angoisse.
Sablier.
Moi, j'aime beaucoup Borges, Franck-Étienne, et je peux penser
Borges
à Borges.
C'est la mythologie.
Quand je vous lis. Et vous savez ce que j'aime bien chez lui? C'est le fait que le livre. C'est une matière presque dangereuse. Hein. Vous vous souvenez dans le livre de Sable,
il raconte ça. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin.
Voilà.
Mais c'est la spirale.
C'est la spirale, on va y venir. Et il y a cette très belle nouvelle où pour lui le livre est tellement dangereux, enfin pour le narrateur d'une des nouvelles, il est tellement dangereux, c'est une matière mouvante comme ça, qu'il préfère abandonner le livre un jour de façon impromptue, enfin anonyme, sur l'étagère d'une bibliothèque de Buenos Aires. C'est quoi un livre pour vous ?
Un livre, pour moi, c'est d'abord un objet concret. C'est un objet concret avec un parfum, avec une couleur, avec une couverture, avec une peau, et puis avec une substance intérieure. Donc c'est un être vivant. Et le livre, pour moi, est surtout une femme, car pour moi, l'écriture est femelle. La création est femelle. Dieu doit être une femme. Je ne suis pas en train...
C'est une posture de séducteur,
c'est
ça.
Pas, non, c'est pas séduction, c'est pas la complaisance à mon âge. Écoutez, j'ai perdu tellement...
Vous n'avez pas d'âge.
Écoute, non, écoute, j'ai perdu tellement de mes instruments d'intervention que là, je peux me permettre
non,
de dire...
Non, mais vous n'êtes pas dans ces catégories de pensée, Franck-Étienne. C'est pas fait pour vous,
non,
ça. C'est trop petit.
Non, non, je le dis, c'est parce que je le pense vraiment. La création est femelle. Et les hommes ont peur de ce mystère chez la femme. Si les femmes savaient combien les hommes ont peur d'elles. C'est vrai.
Est-ce que vous nous liriez un extrait?
Oh, avec plaisir.
D'un pur silence inextinguible.
Avec plaisir.
Extrait du premier mouvement des Métamorphoses de l'oiseau schizophone. Page 20, Franck-Étienne.
Le virus de l'ego dans les pratiques individuelles. Je déchire mes habits et je recycle mes habitudes. La luisance bleue des pierres au seuil blanc de l'oubli. Mes gestes précaires dans le miroir mobile aux folles jointures de l'eau. Doigt de réponse, je crache mes bleus et je vomis mon cœur, mes cris, tous mes cris d'extravagance après la mer en jazz. Eh bien, vous avez adroitement codé votre écriture pour transmettre des messages ésotériques. Tu veux communiquer par les antennes des sociétés secrètes des îles aux ananas, au nœud gordien de la morale, il y a toujours un conflit entre le bien et le mal.
On a donc dans ce pur silence inextinguible un auteur en face d'un képi, peut-être d'un tonton Macoute, en tout cas d'un censeur,
c'est ça,
vraisemblablement. On n'est évidemment pas dans l'autobiographie avec vous, Franck-Étienne, et pourtant on présuppose qu'il y a de la sueur personnelle dans ce texte.
Je réponds globalement, et là je crois que je prends le devant, en essayant de donner une explication, pas une explication exhaustive, mais une approche de mon travail d'écrivain. Il y a l'engagement esthétique. Et à côté de l'engagement esthétique, il y a l'autre qui tout naturellement s'impose, surtout dans un pays comme Haïti. La matière politique, elle est tellement présente. La substance du vivre au quotidien et au premier degré, cette substance, elle t'assiège. Peut-être aussi c'est le cas dans certains pays arabes qui se rapprocheraient de Haïti sur le plan du quotidien vécu. Tu ne peux pas évacuer la misère et la dimension politique qui accable le citoyen haïtien.
Quel était votre quotidien à vous, Sou Duvalier ?
Écrire et lire et aller au cinéma. Parce que j'avais choisi de rester en Haïti. Donc c'était une sorte de ghetto, d'enfermement.
Vous aviez choisi votre prison.
J'avais choisi ma prison, mais j'avais dit que dans cette prison, j'avais l'univers à travers le cinéma, à travers les livres, à travers le théâtre. Et c'est pourquoi c'est l'époque où j'ai lu le plus d'ouvrages dans ma vie. Où je suis allé au cinéma, parfois pour voir 3 films en une journée. Et quand je suis parti pour la première fois à l'âge de 51 ans, j'ai tout simplement redécouvert des lieux que j'avais déjà visités dans les films et dans les livres. Je me rappelle à New York, c'est moi qui j'ai indiqué à un beau-frère qui vit à New York depuis une trentaine d'années. Quand je suis arrivé et que lui, il se mettait dans la situation du guide, il m'a dit, écoutez, non, et il s'appelle Jean-Baptiste. J'ai dit, Jean-Baptiste, c'est de ce côté qu'il faut passer pour aller à World Trade Center. Comment tu sais ça? J'ai dit, écoutez, je suis resté sous Duvalier, mais j'ai fait tous les voyages. Et tu sais que l'imaginaire, aussi bien que les livres qui charrient l'imaginaire, ce sont les grandes portes ouvertes sur l'univers. Alors, il y a chez moi cette conjonction entre l'engagement idéologique et politique et l'engagement esthétique.
Mais comment vous avez fait pour passer entre les mailles de la censure ?
Précisément sur le plan d'écriture avec ce langage codé.
Et ce langage codé. C'est pas une légende.
Mais ce langage codé, c'est le langage du peuple haïtien. Parce que, écoutez, ce type de marronnage, on l'a eu depuis l'époque coloniale.
Alors qu'est-ce que vous appelez ce type de marronnage ?
C'est un marronnage culturel, c'est-à-dire que ce que tu dis dans une langue qui est codée, eh bien, l'interlocuteur qui est en face, si c'est un ennemi, il ne le comprend pas.
Exemple.
Parce qu'il n'est pas de la tribu. Exemple, eh bien, c'est un proverbe que je te donne. Créole parler, créole comprendre. Ça veut dire que ce que tu dis, la personne croit pouvoir l'interpréter à sa manière et pourtant c'est autre chose que tu dis. En créole, on dit « Sowea, c'est ça. Sopawea, c'est ça même. » C'est-à-dire que ce que tu vois, ce que tu regardes là, c'est ça. Mais ce que tu ne vois pas, c'est encore le fondamental. Donc c'est une sorte de marronnage, c'est un marronnage culturel. Dire en présence de l'autre, considéré comme un ennemi, une parole vérité que seuls les membres de la tribu peuvent comprendre. Je n'aurais pas pu écrire comme mes camarades qui avaient gagné l'exil, qui étaient sous le paratonnerre de la France, sous le paratonnerre du Canada, sous le paratonnerre des États-Unis. Moi, j'étais là, face à la gueule, à l'antre du tigre, du loup.
Donc, pour dire qu'on est contre le régime de Duvalier...
Mais il fallait trouver.
On ne choisit pas ces mots-là, on en choisit d'autres. Lesquels ?
Que ce soit en créole ou en français, j'ai privilégié la structuration de métaphores opaques. Et à ce moment-là, j'ai commencé à revendiquer l'opacité comme une dimension esthétique.
En fait, vous avez profité de l'ignorance du régime. Parce que
non,
c'est...
pas l'ignorance. Non ? Écoutez, les gens qui sont dans le pouvoir sont comme des drogués. Quand on a le pouvoir absolu, on est dans l'overdose, je ne sais pas, d'une fausse puissance. Et à ce moment-là, on sous-estime le Créateur. On m'a pris pour un fou. Et c'était bien la folie, cette folie qu'on m'a prêtée m'a sauvé. Parce que quand j'ai écrit « Mur à crever », le titre d'ailleurs est subversif.
« Mur à crever ».
C'est-à-dire « mur avec accent circonflexe », c'est-à-dire prêt à exploser. Duvalier, père, qui était le pape de la dictature à l'époque. Il a lu le livre et il a appelé un officier pour lui dire de sa voix nasillarde, « Mais écoutez, monsieur l'officier, c'est vous qui m'avez apporté ce livre en cadeau pour mon anniversaire. Je l'ai lu. Mais qui a-t-il, hein, ce Franck Étienne ?» Et l'officier qui était mon ami, qui avait lu le livre après.
Et qui était anti-duvaliériste
Non, il n'était pas anti-duvaliériste. Il était l'ami de Franck Étienne.
Non, votre livre.
Oui, le livre anti-dictatorial, contre le pouvoir. Un livre subversif. Parce que c'est un livre qui déjà parlait des migrations clandestines et des gens qui étaient refoulés et qui avaient préféré se jeter à la mer plutôt que de revenir en Haïti quand ils se rendaient compte des configurations montagneuses de la terre. Ils disent « Oh, je retourne en Haïti, ils ont préféré se jeter dans la gueule des requins, des squales. » Et l'officier, pour sauver l'ami, ça je lui, il est encore vivant. J'ai une immense reconnaissance envers cet homme. Il a dit « Ah, président, ce Franck Étienne est un vieux fou. C'est quelqu'un qui est fou, regardez ce qu'il a écrit sur son père. » Et il s'est souvenu d'un passage d'un mur à crever où j'ai parlé de la mort de mon père biologique, le blanc américain, qui est mort en faisant l'amour à une enfant de 15 ans. Il était un véritable prédateur, ce Benjamin Lies.
Il vous a sauvé la vie comme ça? Vous êtes passé pour un fou?
Je suis passé. Non, Duvalier a répondu, fou, de toute manière, ayez-le à l'œil parce qu'il n'est pas aussi fou que ça.
Est-ce que le fait de privilégier l'écriture ou l'esthétique sur la narration, ce n'était pas aussi une stratégie de votre part?
Une stratégie, bien sûr. C'est à la fois une stratégie. À ce moment-là, nous sommes dans le champ idéologique et politique, et c'est en même temps une manière esthétique de dire des choses au second degré pour que les gens maintenant puissent être des laborieux. Parce que trop souvent, le lecteur veut du tout cuit. Je voudrais que le lecteur soit aussi créateur et qu'il puisse aller au-delà même de ce que j'ai écrit dans un livre.
Boris Godounov.
Boris Godounov, c'est le côté baroque dans l'opéra russe et le coup d'État, cet homme qui prend le pouvoir, qui est cet imposteur. Et puis, alors que moi j'ai été ténor toute ma vie, je suis fasciné par la voix de basse. Le rôle principal est joué par cette voix de basse.
Thank you.
Moussorgski, toujours modeste, avec Boris Godounov, un opéra qui rappelle furieusement un autre dictateur régnant sur un autre chaos. Franck Etienne, toujours aux manettes de ce week-end, est de retour demain pour un nouvel En sol majeur exceptionnel, même salon, même horaire. Caroline Fillette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on ne bouge pas jusqu'à demain, 13h10, temps universel. À demain.